Y a-tu du son? Ouais, OK. T'avais pas... Good. Alors, nous allons dans Jean 4. Comme j'aime la parole de Dieu, c'est la parole vivante et éternelle de notre Dieu. Que nous avons la joie et le privilège d'ouvrir ensemble. On va lire, à travers le message, on va lire... Tout, dans le fond, on finit l'histoire de Jésus qui est à Sichar en Samarie. On commence par contre juste avec les versets 27 à 30. Puis à travers le message, on va tout lire les versets. Mais j'ai hâte de vous partager ça parce qu'on voit l'étendue de la compassion de Jésus. Comment, non seulement pour cette femme, il y a eu compassion, mais le village entier. Et donc, on peut lire ici dans Jean 4. Verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples. Donc, la semaine dernière, vous vous rappelez toute la discussion entre Jésus et la Samaritaine. Et donc, là, on reprend l'action là. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Okay. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu? » ou « De quoi parles-tu avec elle? » Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Seigneur, on fait exactement ça, on vient à toi. Parce qu'on a ta parole et Seigneur, c'est toi qui s'en sers comme matériau pour bâtir les vies, pour restaurer, pour sauver, pour faire des choses extraordinaires et merveilleuses. Mais ça commence simplement en allant à toi, comme ces gens du village sont sortis pour aller à toi, Seigneur. On veut sortir de nos pensées, de nos anxiétés, de nos choses qui nous préoccupent, nos distractions, comme notre frère priait, pour venir à toi. Dans le silence de nos cœurs, pour t'écouter. Oui, Seigneur, fais le silence dans nos cœurs pour qu'on entende les merveilles de ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Merci que tu es là, tu es bon, tu es vrai, tu es vivant. On s'en remet à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, ici, on voit juste, on a vu très brièvement la femme qui laisse sa cruche là, mais je rappelle que cette femme était méprisée, elle était délaissée, abandonnée, mais elle a eu beaucoup plus d'influence et d'impact sur un village au complet que Nicodème, le grand théologien, un homme, un grand théologien, directeur, dirigeant d'Israël. Alors pourquoi ce contraste? Pourquoi une si grande différence entre ces deux personnes? Bien, le message va répondre à cette question avec trois caractéristiques évangélistiques de cette femme. Puis il y a la femme, mais aussi on va voir ce que Jésus a à dire, c'est très intéressant. Mais on peut le résumer par l'étendue de la compassion de Jésus. C'est-à-dire que lorsque la compassion de Jésus est déversée dans un cœur, comme cette femme qui a reçu l'amour de Dieu, ben ça déborde, parce que Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Donc, elle débordait sur les autres. Mais il y a plus que ça, parce qu'on vient de le lire, la femme est là, puis elle laisse sa cruche. C'est comme, elle a complètement oublié... je veux dire, pourquoi elle était venue, puis tout ça... Un peu comme lorsque Jésus, avec un aveugle, ça dit dans Marc 10, que l'aveugle a jeté son manteau. C'était souvent, un aveugle avait tellement pas grand-chose, son manteau, c'était vraiment une partie importante de sa vie. Puis il s'est levé d'un bond, puis il a été à Jésus. Bien, c'est un peu ça aussi, l'idée. On voit une personne ici transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ou pour le mettre dans les... mot du cantique, dans Prélude, le numéro 37, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir, là, mais ça s'appelle « Quand Jésus vient », une des strophes, ça dit « Quand Jésus vient, l'ennemi se retire, il dit un mot et son pouvoir est brisé. » Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, quand on va à Jésus, il n'y a plus rien de pareil. Et c'est ça qui est arrivé, c'est pour ça que cette femme a eu tellement d'impact, c'est pas à cause d'elle, c'est à cause de ce que Jésus a fait d'elle. Et ça, c'est la puissance transformatrice de rencontrer Jésus. Et le message, dans le fond, aujourd'hui, qu'on considère, ben, c'est comment ça a eu un effet, ça a eu un déferlement, si vous voulez, sur les autres autour d'elle. Et tout ça, évidemment, c'est à l'instigation de Jésus. Hein? qui a fait un détour pour aller voir cette femme, et cette femme qui est allée voir les autres, qu'on voit un effet boule de neige ici, merveilleux et extraordinaire. Donc, j'aimerais qu'on regarde simplement, après ce matin, trois caractéristiques des témoins de Jésus qui débordent de la compassion de Jésus. Trois caractéristiques des témoins de Jésus qui débordent de sa compassion. D'abord, dans les versets 27 à 30 qu'on vient de lire, on voit que les témoins de Jésus qui débordent de sa compassion sont enthousiastes par rapport à Jésus. Cette femme-là était, avant, il y avait vraiment un changement. Au début, quand Jésus la voit, elle est plutôt à leur garde. « Oh, on n'a pas de relation avec les Juifs. » Mais là, elle était complètement changée. Elle était enthousiaste par rapport à Jésus. Et évidemment, on voit au verset 27 que cet enthousiasme n'était pas partagé, parce que là, au début, les disciples sont arrivés et ils étaient étonnés que Jésus parlait à une femme. Puis là, on dit, ben quoi, il n'y a rien là. Regarde, on vient de parler hommes et femmes. Savez-vous que dans la culture de l'époque, c'était une honte, voire un outrage pour un homme juif de parler à une femme en public, même sa propre femme. C'est un peu bizarre. Ben c'était comme ça. Okay? C'était les coutumes de l'époque. Puis, imaginez-vous, là, sa propre femme, mais là, imaginez-vous, Jésus, un homme qui parle à une femme en public, une femme samaritaine, de mauvaise réputation, OK? Dans le fond, là, c'est l'apogée de la honte. Ça ne fait pas penser à Jésus qui a pris notre honte, qui, comme dans la parabole du fils prodigue, hein, le père qui va au fils puis qui se couvre de toute la honte du fils, dans le fond, de toutes les façons possibles. Et ici, on voit Jésus qui fait ça avec cette femme-là. Évidemment aussi tout le village, parce que l'esprit qui animait Jésus, c'est l'esprit d'Ésaïe 53, et je vous lis. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité ou la honte, okay, le péché de nous tous. » C'est l'esprit qui animait Jésus ici. L'échange, le grand échange. Il prenait sa honte à cette femme-là et il l'honorait en lui disant, « Tu as de la valeur à mes yeux. Je prends du temps pour toi, non seulement pour te parler, mais pour te donner le cadeau précieux de la vie éternelle, que c'est moi seul qui peux donner. » Et évidemment, comme je l'ai dit, il y avait quand même un malaise, on le voit au verset 27. Pourquoi? Parce que les disciples, on peut leur faire plusieurs reproches ici. Le premier moment, je pense qu'ils ne comprenaient pas exactement sa mission. N'est-ce pas que Jésus, ça a été prophétisé de lui qui était celui qui venait porter les bonnes nouvelles aux malheureux, qui était envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je pense que la madame accroche toutes les cases, là. Pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. C'était ça sa mission. Et Jésus, c'est clair que c'est ce qu'ici, il fait avec cette femme-là. Puis, donc, les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, même, vous allez voir tantôt, il va parler un langage qui les dépassait. Mais pour arrêter de parler des disciples, maintenant, on regarde la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a laissé sa cruche, puis elle s'en va à la ville voir les gens. Probablement qu'elle est allée à la course. Bon, en tout cas, elle n'a pas dû aller entraînant ses pieds, parce qu'elle était enthousiaste pour le Seigneur. Elle était tellement heureuse d'avoir découvert Jésus, découvert celui qui est le Messie promis et qui lui a dit toutes ces choses, qu'elle ne voulait même pas s'embarrasser des choses de la vie. C'est comme si le Saint-Esprit, sur le spot, il avait enseigné, c'était pas encore écrit, là, mais 2 Timothée 2,4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. » Elle ne voulait pas s'embarrasser de ça. Sa cruche, elle dit, « Je retournerai plus tard ou je ne sais pas trop quoi. » Mais là, elle voulait aller dire ce que le Seigneur avait fait pour elle, pour son âme. Et il n'y avait pas de pression humaine, il n'y a pas quelqu'un qui dit, « Hey, dépêche-toi, va le dire. » Non, c'était spontané, ce feu brûlait dans son cœur et débordait. Et je crois que c'est la raison principale de son efficacité. Son efficacité à atteindre les gens. Parce qu'elle était tellement heureuse et contente d'avoir connu celui qui a changé sa vie. Elle était transformée et ça se voyait Et ça s'entendait. Je suis sûr que même le ton de sa voix n'avait pas dit hey, « j'ai vu quelqu'un que c'est le Messie. Serait-ce le Messie? » Non, elle devait justement... On s'imagine un peu la scène quand on a un peu d'imagination sanctifiée. Et vraiment, on voit que cette femme-là, elle était, c'est la première caractéristique, elle avait de l'enthousiasme pour Jésus qu'elle venait de découvrir. Et là, ensuite, on arrive, puis qu'est-ce qu'elle dit, cette madame-là, au verset 29? « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? » D'abord, « Venez voir! » Hein, n'est-ce pas quelque chose qui « Viens et vois! » OK, c'est quelque chose qui est récurrent là, depuis qu'on est dans Jean. Mais « Venez voir! » Puis, elle pose une question. « Ne serait-ce pas le Christ? » Et je crois ça, il y a quelque chose de vraiment important ici. Pourquoi? Parce qu'elle fait appel à la conscience des gens qui l'écoutent. Elle pique leur curiosité. Et je crois que lorsqu'on partage le Seigneur et qu'on s'adresse comme ça à la conscience, c'est drôlement plus efficace que des fois simplement essayer de proclamer des choses, de dire des choses. Pourquoi? Parce que ça amène les gens sur le terrain de se poser la question par rapport à qui est Jésus. Poser des questions. Et aussi, évidemment, cette madame-là, elle ne pointait pas à elle. Elle n'avait pas grand-chose à pointer pour elle, sur elle, mais elle était tellement enthousiaste par rapport à Jésus que c'est de lui qu'elle parle. Et je pense que lorsque on veut partager l'Évangile, la parole de Dieu aux gens, bon, on a des déclarations à faire, là. Je veux dire, le salut, l'Évangile, il y a des vérités fondamentales qu'on doit proclamer, mais je crois que l'approche en posant des questions, c'est tellement efficace. Puis j'ai lu quelque chose ici, quelqu'un qui nous disait, voici ce qu'il fait lorsque, en général, c'est pas des questions nécessairement tout le temps mot pour mot, mais en général, qu'on peut poser des questions à des gens lorsque on veut leur partager l'Évangile ou pour préparer le terrain. Par exemple, as-tu des croyances spirituelles? Ça met un peu la table. Qui est Jésus-Christ pour toi? Crois-tu qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer? Crois-tu à la vie au-delà? Si tu meurs, sais-tu où est-ce que toi, tu vas aller? Puis pourquoi Dieu te laisserait entrer dans ton ciel? Vous, c'est toute une série de questions. Je ne vous dis pas que c'est absolument ces questions-là qu'il faut poser, mais ça amène les gens à réfléchir. Puis voici la dernière qui est tellement importante. Si ce que tu crois n'est pas vrai, est-ce que tu veux que je te dise ce que je sais qui est vrai par rapport à toutes ces choses-là que je viens de te partager? Puis cette personne-là dit que c'est jamais arrivé que quelqu'un dise non, je ne veux pas entendre parler de ce que tu me dis par la suite, parce que souvent, justement, les gens ont la curiosité. Puis dans l'approche qu'on a comme ça, ça l'ouvre la porte à partager l'Évangile. Je ne veux pas dire que les gens ont tous été sauvés, mais ça a été une occasion de semer la semence de l'Évangile. Et là, comprenez, je suis en train de vous enseigner une technique. Là, cette madame-là n'avait pas une technique, elle a juste posé une question. Mais il y avait quelque chose là qui a fait en sorte que ça l'a attisé la curiosité des gens. Mais vraiment, le secret de cette femme de son efficacité, c'est qu'elle a eu une rencontre transformante avec Jésus. On a prié ça tantôt, c'est sorti dans le temps de prière. Une rencontre transformante avec Jésus. N'est-ce pas le salut? N'est-ce pas ça? Et n'est-ce pas aussi dans notre vie quand on grandit dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus? C'est quoi la connaissance? C'est quand on rencontre Jésus dans le milieu de nos circonstances, puis là, on le découvre, on le connaît sous un angle, sous un aspect qu'on n'avait pas encore découvert. Puis là, on a un « wow » de Dieu. On dit « oh, Dieu, t'es donc bien merveilleux ». Et ça, mes amis, c'est la clé de la sanctification. C'est découvrir notre Dieu, découvrir qui il est, quand il se présente comme ça à nous. Parce qu'on ne peut pas rester pareil, rencontrer Jésus, puis après ça, on repartir, puis comme si de rien n'était. Tout change quand Jésus vient. J'aime ce cantique. Faudrait peut-être qu'on chante après-midi. J'ai mon préféré pour tantôt. Et donc, cette madame-là était tout enthousiaste et je crois qu'elle était attirante, elle qui était avant, qui était un sujet de mépris et de rejet. Là, plutôt, les gens avaient, c'est quoi qu'elle va dire? Tu sais, attirante dans le sens de, je sens qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'apprendre de cette madame-là. La façon qu'elle parle, là, j'ai pas entendu quelqu'un dernièrement parler de même. Pourquoi? Parce qu'elle parlait de Jésus, puis c'était vrai, parce qu'elle avait vécu. Donc, elle avait la transformation de la grâce de Dieu, et ça m'amène à la deuxième caractéristique des témoins de Jésus. Non seulement ils sont enthousiastes pour Jésus, mais aussi ils sont propulsés par la pensée missionnaire. Et là, on va apprendre de Jésus lui-même, parce que quand on voit au verset 31, là, on a la discussion entre Jésus et les disciples. On va lire versets 31 à 38. « Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. » D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Propulsés par la pensée missionnaire. Et là ici, pour une xième fois, encore une fois, on voit un contraste entre la disposition, la pensée de Jésus versus celle de ses disciples. Ils disent « Mange, t'as pas mangé. » Puis là, il leur répond quelque chose qu'ils comprennent pas. « J'ai une nourriture qui n'est pas d'ici-bas. » Dans le fond, ces versets-là, c'est quoi? Déjà, dans les versets précédents, il était face à un choc culturel, Jésus qui parle à une femme comme ça. Mais là, ici, il y avait un autre choc. Jésus leur parlait des choses célestes, eux autres pensaient, étaient dans les choses terrestres. Et c'est pour ça ici qu'il y avait une incompréhension entre les deux. Et on va décliner ça ensemble pour comprendre c'est quoi cette pensée missionnaire qui anime ceux qui sont transformés par la grâce de Dieu. D'abord, la pensée missionnaire, et on voit ça dans les, on a lu les versets 31 à 34, on voit ça dans les paroles de Jésus, où est-ce que la pensée missionnaire place la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu au-dessus de tout. C'est suprême. Pas un « il faut » parce que je suis obligé, mais parce que c'est le désir suprême. OK? Ici, Jésus, on voit que son centre d'attention, son focus n'est pas sur les choses ici-bas. Ce n'est pas parce qu'il avait pas faim, on sait qu'il avait soif, on l'a vu au début. Probablement aussi qu'il avait faim, mais ce n'était pas ça son souci premier. Ce n'était pas ça qu'il mettait au-dessus. Non, c'était la volonté de Dieu, c'était, OK? C'est ça qu'il leur communique ici. Autrement dit, comme ça dit dans Colossiens, il regardait aux choses d'en haut, il s'attachait aux choses d'en haut. Et il regardait aux choses, non pas visibles, mais aux choses invisibles, non aux choses temporaires, mais à celles qui sont éternelles. En fait, le Saint-Esprit ici qui a inspiré les Écritures n'a pas cru bon de nous dire si Jésus, on sait qu'il a bu probablement, là, veut dire avec la conversation avec la femme, probablement qu'il a bu, là. Mais on ne sait pas s'il a mangé cette journée-là, mais on apprend par exemple qu'il y a eu un impact sur un village au complet. Parce que ça, c'est vraiment justement le fruit éternel. Que Jésus ait mangé ou bu cette journée-là, ça ne change pas grand-chose dans l'éternité. Mais le fait qu'ici, il y avait les paroles de vie qui partageaient puis qui ont été reçues, ça, ça change quelque chose dans l'éternité. Le village, je ne sais pas si c'est en entier, mais en tout cas, a reconnu, accepté Jésus comme leur sauveur. Parce que c'est ça que Jésus est venu faire. Jésus a dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Et aussi Jésus, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, a dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et c'est une œuvre de délivrance, de salut. Et ça m'amène à poser cette question-ci. Qu'est-ce que je recherche dans mes relations? Ou pour le dire, qui est-ce que je recherche dans mes relations? Puis là, je vais avoir un exemple concret, pratique. Il y a des gens qui ont autour de, ok, je vais le dire en bon québécois, nous tomber ses nerfs, ou des fois on dit, payer sur le piton sensible, là. Tu sais, des gens qui Il nous cherche puis il nous trouve. On dirait qu'il y a un genre de don spirituel pour essayer, pour réussir à nous énerver. OK? Non, mais c'est vrai. Il y a des gens avec qui on a moins d'affinité ou des fois il y a des animosités. OK? On sait c'est quoi, c'est Agag. Excusez, Agag, on a parlé l'autre jour. Mais Aman puis Mardoché, disons qu'ils ne s'entendaient pas très bien. Là, OK? Puis moi, je pense entre autres à quelqu'un au pénitencier de Donnacona. Pour moi, cette personne-là a le don. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dur à travailler avec. Là, je ne parle pas de mon collègue Alain. N'allez pas penser ça parce que là, il... Mais, OK, est-ce que mon attention, mon focus, comme on dit en bon québécois, est sur le dérangement, l'irritation que cette personne-là provoque ou sur l'opportunité de marcher par l'esprit? Parce que lorsqu'on est attaqué avec la chair, on a le choix. On peut répondre par la chair ou on peut répondre par l'esprit. Je vous laisse deviner c'est quoi la bonne réponse. Un indice, c'est pas la chair, OK? Je veux juste être clair dans mon enseignement aujourd'hui pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, OK? On a le choix. En fait, c'est Dieu qui met devant nous l'occasion de le glorifier. Dieu nous met vraiment ici l'occasion de dire, OK, c'est où ton choix? C'est qui tu recherches? Tu cherches tes voies, tu cherches ce que toi tu veux ou tu me cherches moi? Tu vas me trouver si tu réponds par l'esprit à ce que tu es en train de faire. Puis ça, je parlais du pénitencier. C'est arrivé à un moment donné, là. Tu sais, un lundi. Il y en a-tu ici qui ont déjà lu des Garfield? OK? Garfield déteste les lundis, là. OK? Parce que les lundis, tout va mal, là, puis le réveil matin. Puis là, c'était un de ces lundis garfieldesques, là. Ça allait pas bien, c'était un poche lundi, tout allait de travers. Mais tout allait comment Dieu voulait. Puis justement, cette personne-là dont je parle était l'instrument dans les mains de Dieu pour. Tu sais, puis c'est vraiment, c'est à partir de la journée, c'est comme, OK, Guillaume, t'as le choix, là. Tu réponds soit à la chair, par la chair ou par l'esprit. Puis juste le simple fait que je me... Tu sais, j'ai fait une prière à la Néhémie, là, c'était dans le in the heat of the moment, là, dans la chaleur du moment, que là, tu sais, dis Dieu, OK, je veux répondre à toi à ça, là. Ça l'a fait un effet boule de neige. Finalement, cette journée-là, effectivement, il n'y a rien qui est allé comme je pensais, puis les irritations se s'additionnaient, pas sûr qu'ils se multipliaient, mais disons... Mais Dieu a fait des choses extraordinaires. J'ai vu la main de Dieu... Faire ce que juste Dieu peut faire. Pourquoi? Parce que j'ai simplement décidé, pris la décision de répondre par l'Esprit. Et c'est ça l'idée d'être animé avec la pensée missionnaire, c'est voir le besoin spirituel, voir la réalité spirituelle au-delà de ce qui tape à l'œil ou qui vient nous chercher ici-bas. Là. Okay? Ou pour le dire autrement, nos dérangements sont les arrangements de Dieu. C'est Dieu qui arrange tout ça. Nous, ça peut nous déranger, mais Dieu a tout arrangé ça. Ou vous connaissez celle-là, ça c'est un classique, là. Nos inconforts sont les opportunités du réconfort de Dieu. Et donc, ça, c'est la première chose sur la pensée missionnaire. Mais aussi, on voit dans les versets 35 à 38 que la pensée missionnaire, puis ça va un peu avec ce que je disais dans mon illustration, ça nous ouvre aux leçons de Dieu. Le Saint-Esprit, ce qu'il veut nous enseigner. Et donc, là, Jésus leur parle, les autres sont dans le terrestre, Jésus parle du céleste, OK? Et dans les versets 35 à 38, il commence à leur parler de moisson, la moisson qui est prête, puis, OK, qui est blanche. Puis là, il parle de moissonneur et tout ça. Et donc, cette occasion qu'eux autres, ils ne comprenaient pas trop ce qui arrivait, Jésus en a fait une bonne opportunité pour enseigner des leçons spirituel. D'abord, il leur dit, OK, moi je suis peut-être dérangé, oui j'ai pas mangé, puis tout ça, mais il y a une moisson là, qui est prête, là. Dieu est à l'œuvre en ce moment. Et ça peut venir des fois des endroits les plus inattendus, ou des personnes les plus attendues. Cette femme, puis son village qui est un village de Samaritains, hein? La Samarie n'était pas l'endroit le plus probable dans la tête d'un Juif pour qu'il arrive quelque chose de spirituel, de bénéfique et de rédempteur. En fait, vraiment pas, OK? Parce qu'eux autres, c'était les semi-païens qui étaient tout mêlés dans la parole puis qu'ils ne comprenaient pas les choses essentielles. Puis c'est vrai, ils étaient bien mêlés sur bien des affaires des Samaritains. Ils n'adoraient pas Dieu en esprit par vérité. C'est sûr que Jésus là, a parlé comme ça à la femme, comme on a vu la semaine dernière. Puis en plus, cette femme-là, c'était pas le beau prospect pour l'évangélisation. Pensez à ça, là. Cette femme-là, dans les premiers abords avec Jésus, elle ne montre pas d'intérêt. Elle ne veut pas parler avec. Elle est plutôt... elle repousse Jésus. Elle est confuse dans les choses spirituelles. Elle, mais elle est avec la montagne d'un bord, puis ça, puis OK. Elle vit dans l'immoralité. OK. Elle n'a pas un grand potentiel, humainement parlant, de devenir une leader spirituelle. Finalement, là, il n'y avait rien de probable au niveau humain quand tu regardes cette femme-là, puis son village, puis toute la situation au complet. Mais Dieu a traversé tous les obstacles, il a traversé le pont en prenant le temps pour cette femme-là pour avoir un impact éternel sur sa vie et sur son village. Pourquoi? Simplement parce qu'il a pris le temps de s'arrêter puis lui donner les paroles de vie. Lui parler d'eau vive qui n'était pas juste une parabole, qui était littérale par rapport à la vie éternelle qu'il lui offrait. Et c'est ça aussi l'idée de la pensée missionnaire, c'est de traverser les obstacles, les ponts qui peuvent nous séparer de certaines personnes, de certains groupes de personnes, parce que oui, on a des préjugés, oui, il y a des gens envers qui on est moins disposé. Mais Dieu, lorsqu'on se laisse utiliser par lui, il va faire à travers nous des choses extraordinaires, puis souvent c'est là qu'il va se glorifier. Et j'aime ici au verset 36, quand Jésus il dit « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Il y a une récompense, il y a une joie qui est grande lorsqu'on est impliqué dans la moisson de Dieu. Pas parce qu'on dit « Ah, j'ai fait ma BA pour la journée », mais de voir que Dieu fait quelque chose de surnaturel puis qu'on en est témoin. Oui, OK, on peut avoir été instrumental là-dedans, mais c'est surtout de voir Dieu. C'est pas l'instrument qui est important, c'est ce que Dieu fait à travers l'instrument que lui décide d'utiliser. Et tout ça pour dire qu'il y a une récompense à la foi. Il y a une récompense à celui qui sème, même si des fois c'est avec larmes, parce qu'il va revenir avec les gerbes en chantant des chants d'allégresse. On continue verset 37, Jésus continue à parler, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ici, Jésus nous parle de la loi de la semence. On récolte ce que l'on sème. Vous connaissez Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et aussi, 2 Corinthiens 9:6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est quelque chose qui est à travers les Écritures, beaucoup dans les paroles de Jésus, cette loi de la semence. C'est quelque chose qu'ils voyaient, c'est un monde agricole à l'époque, beaucoup plus que dans leur face que ce que nous on peut avoir maintenant, sauf ici à Saint-Augustin, il y a des champs autour. C'est des vérités toutes simples, mais inévitables. On récolte ce que l'on sème, si on sème peu, on moissonne peu. Si on sème pour la chair, on va moissonner de la chair à la corruption. Si on sème pour l'esprit, on va moissonner pour l'esprit. Il y a tellement de leçons là-dedans, mais ici, Jésus leur parle d'une moisson spirituelle, une moisson d'âme et du travail aussi de l'un et de l'autre. Et ça nous parle ici de gens qui rentrent dans le travail d'autres. Autrement dit, moi je peux travailler à semer, mais c'est pas moi qui vais récolter, c'est un autre. Parce que c'est ça que Jésus leur dit, parce que Jésus ici leur parle, quand on regarde là, les prophètes, emmener la parole, ils ont proclamé, puis tout ça. Fait qu'il y avait déjà tout un travail qui avait été fait hein, par ceux qui les avaient, qui avaient été avant eux. Puis eux autres, ils rentraient dans leur travail, les disciples. Puis ils pouvaient tous se réjouir ensemble parce que tout ça, c'était le plan rédempteur de Dieu qui est en train de s'accomplir. Mais savez-vous quoi? Et ça, dans les milieux chrétiens, ça peut être souvent une réalité. On peut être jaloux, on peut être des fois mécontent au lieu de se réjouir quand Dieu bénit, quand Dieu fait en sorte qu'une église grandit, puis que la nôtre commence à grandir. Comprenez-vous? Quand on se rappelle simplement que c'est Dieu qui fait croître, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, ça enlève l'esprit de compétition. Puis on peut se réjouir vraiment de ce que Dieu fait dans la vie des autres, dans les autres églises. Parce que lorsque ça vient de Dieu, on se réjouit en Dieu. Peu importe, comme je le disais tantôt, l'instrument que lui a décidé d'utiliser. Saviez-vous, connaissez-vous Adoniram Judson? Ah, je le prononce peut-être pas bien, là. OK, Monsieur Judson, le connaissez-vous?
Non.
Missionnaire en ce qu'on appelle, OK, Birmanie, ou l'autre nom qu'on donne à ce pays-là, c'est le... Hein? Le Myanmar. Mais en ce moment, c'est quoi le bon nom? En ce moment, on dit Birmanie. Ou on dit Myanmar. C'est rendu Myanmar. OK. Un pays, c'est un pays d'Asie qui est très hostile. En fait, on a vu dans la lettre de prière de M. Logan, qui est hostile et tout ça. Et c'est l'été aussi du temps de M. Judson. Puis il a peiné pendant des années. Il y a eu très peu de résultats. Beaucoup d'opposition, peu de résultats. Mais savez-vous que c'est un fait historique que, bon, puis là, je ne veux pas être trop dans les chiffres, je ne veux pas me tromper, mais environ, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, environ 1 million de personnes qui sont devenues chrétiens retracent leur origine spirituelle à l'ensemencement qui a été fait par M. Judson. C'est pas lui qui les a amenés, personne, mais tu sais, finalement, son travail, c'est pas en vain. Il faisait un travail préparatoire, c'était peut-être plus lui pour labourer, puis il a semé, mais il n'a pas vu grand-chose pousser, mais c'est pas en vain. Dieu l'a envoyé là avec... le but de sauver des âmes précieuses. Donc, pensez-vous qu'ils pouvaient se réjouir autant que ceux qui ont récolté? Oui, parce que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu de toute façon. Et donc, nous ne semons pas la parole de Dieu en vain, mais la parole de Dieu nous dit, ne nous lassons pas, car nous moissonnerons au temps convenable. Et donc, ça m'amène à la troisième caractéristique de ceux qui déborde pour Jésus de sa compassion, c'est qu'ils invitent simplement à Jésus. Non seulement sont enthousiastes pour Jésus, non seulement ils ont la pensée missionnaire, mais aussi, on le voit ici dans notre texte, ils font simplement inviter à Jésus. Et là, on va lire les versets 39 jusqu'à la fin, à 42, à la fin de notre texte, là, pas du chapitre. « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver Jésus, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Et remarquez, ça nous parle au verset 39 de cette déclaration formelle. Hein, il m'a dit tout, OK, autrement dit, il a dit, c'est pas quelqu'un d'ordinaire, il m'a dit tout à mon sujet. Puis, c'est pas juste à cause de sa parole à elle, cette femme-là, mais aussi à cause que Jésus a passé du temps là, ils ont pu l'entendre à cause de la parole même de Jésus qui est sortie de sa bouche, et ça l'a donné qu'ils l'ont reconnu comme étant le sauveur du monde. Maintenant, voici ce que je veux vous amener par rapport au verset qu'on vient de lire. Lorsqu'on comprend l'hostilité qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains, et l'acceptation chaleureuse que ces gens, ces Samaritains de Sichar, ont donné à Jésus et à ses disciples, on constate que le Saint-Esprit, le Dieu vivant, peut briser les barrières que le monde a érigées. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Les hommes mettent des barrières, des limites, et c'est un des titres messianiques que Jésus est celui qui brise toute entrave. Dans Michée, chapitre 2, verset 13, ça dit qu'il est celui qui fait une brèche, qui brise. En anglais, j'aime ça parce que ça fait quasiment comme un titre de film. « He's the breaker ». « Le breaker ». Le breaker. Non, ça se traduit pas bien, ça. Le disjoncteur. Non, mais c'est ça. Donc, le monde érige des murs et des barrières. Dieu les brise pour amener son salut, sa délivrance. Et comment tout ça se passe? Ben, un peu comme avec Philippe qui a dit à Nathanaël, « Viens et vois. » C'est quoi que la madame a dit au verset 29? « Venez voir. Venez voir. » Elle a invité à Jésus. C'est pas plus compliqué que ça. Elle n'avait pas grand-chose à dire, la madame. Elle n'avait pas une grande théologie, elle n'avait pas une grande connaissance, elle n'avait pas une grande réputation. Elle n'avait rien. Mais ce qu'elle a découvert, elle dit, venez le voir. J'ai découvert celui qui est le sauveur du monde. Et faut voir que dans la rencontre ici qu'elle invitait les gens à voir, il y a deux éléments que j'aimerais souligner. D'abord, elle voulait simplement se concentrer sur qui est Jésus. Venez voir celui qui m'a dit. Elle ne dit pas venez voir ce qui s'est passé. C'était pas un quoi, c'était pas un où. Hey, il était là-bas au puits. Non, non. Elle se concentrait sur qui est Jésus. Parce que cette déclaration-là formelle, dans le fond, ça suscitait de la curiosité, comme je l'ai dit, mais par rapport à l'identité de Jésus. C'est pas n'importe qui nous visite. C'est celui qui m'a dit tout à mon sujet, puis après ça, on s'y vu. On croit maintenant qu'il est le sauveur du monde. Parce que, oui, certains auraient pu réduire Jésus à être un simple prophète. Ouais, wow, un prophète qui est capable de dire les choses que les gens n'ont pas dit. Mais il y avait plus que ça, parce que lorsqu'ils ont passé deux jours avec, puis qu'ils l'ont entendu, puis qu'ils l'ont vu. D'ailleurs, savez-vous qu'il n'y a pas de village juif comme ça, que Jésus a visité comme ça, qui a passé deux jours. Il allait souvent à Capernaum, puis ça, mais là, il a donné ce privilège-là de rester là, dans une mission évangélistique. Et là, une fois qu'ils ont passé comme ça deux jours, ils ont pu constater par eux-mêmes qu'il est réellement et vraiment le sauveur du monde. Et ça m'amène à cette question tellement fondamentale ce matin. Jésus l'a posé à ses disciples dans Matthieu 16. Et vous? Et toi? Qui dis-tu que je suis? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Pas ce que l'autre à côté pense, pas ce que ton cercle dit, mais toi, c'est une question éternelle. C'est une question, en fait, il n'y a pas de question plus importante. Et la deuxième chose qu'on voit avec cette madame-là, elle se concentre sur qui est Jésus, mais aussi elle dit de venir à Jésus. Venez voir celui. Et ça, on a tellement ça. Jésus, avec qui on parlait de ça? C'est avec un détenu. Vous connaissez Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. On lit aussi dans Apocalypse à deux reprises, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entende dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie, de la vie, gratuitement. Puis aussi dans Ésaïe aussi, c'est à deux reprises, on voit, ça dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. À trois reprises, ça dit venez, venez. C'est pas plus compliqué que ça. Venir à Jésus. Et donc, voici ce que ça m'amène à dire pour terminer ce matin. C'est quoi l'invitation de Dieu pour toi qui écoutes ici ce matin, ici et maintenant? Viens à Jésus. Viens à Jésus. Tu es peut-être écrasé par le fardeau du passé, du péché, de la peur, du stress. Viens à Jésus. Peut-être que tu es assoiffé de vie, de satisfaction, de sens. Viens à Jésus. Il y a seulement Jésus qui donne gratuitement et pleinement. Donc, aller à Jésus, ce n'est pas plus compliqué. C'est aller à celui qui nous donne tout pleinement. Et Jésus donne aux Samaritains de ce monde, aux gens délaissés, aux gens abandonnés, découragés. Écoutez comment c'est prophétisé dans le psaume 107, comment Dieu se soucie de ceux qui sont dans les pires situations. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilièrent leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Et c'est ça la mission de Jésus, il vient pour combler. Et la simple chose à faire, c'est de venir à Jésus et de reconnaître qui il est. Et donc, l'invitation est lancée. C'est pas compliqué. Viens à Jésus. Et ça, c'est la réponse que Dieu demande. Il faut s'humilier, voir qu'on est dans le besoin, et il faut croire qu'il est la réponse. Pourquoi j'irai à Jésus? Parce qu'il n'y a pas d'autre où aller. Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Enfant de Dieu, peut-être que ton enthousiasme pour Jésus s'atténue, se refroidit. Viens à Jésus. Peut-être que ta pensée missionnaire s'effrite et n'est pas très vivante en ce moment. Viens à Jésus. Peu importe c'est quoi la situation, la solution est la même. Venons à Jésus. Oui, Seigneur, merci qu'on a lu tellement plus que des paroles dans un livre. Seigneur, on a entendu ta voix. Tu es le Dieu personnel qui nous invite à toi. Et donc, Seigneur, moi, je viens à toi. Merci pour ton accueil. Merci pour ta compassion. Merci aussi que tu ne fais pas semblant que le péché n'existe pas, que tu fais pas, tu le mets pas en dessous de la couverte. Tu veux qu'on vienne à toi en te confessant la réalité de nos cœurs. Je pense qu'il y a vraiment de la puissance, plus qu'on peut le penser ou l'imaginer, parce que souvent on ne l'expérimente pas, mais dans la confession. Être vrai avec toi. Je prie, Seigneur, qu'on vienne à toi te confesser nos doutes, nos peurs, tout ce qui peut, Seigneur, être un frein, mais merci que ce n'est pas un obstacle pour venir à toi. Merci que, Seigneur, toi, tu brises toute entrave. Tu brises tout obstacle. Là où est-ce qu'il y avait un mur, Seigneur, tu tends la main. Tu brises tout ce qui vient entre nous et toi. Et donc, Seigneur, on veut simplement venir à toi ce matin. Merci pour ce temps. Seigneur, que ton peuple ici réuni réponde. Et que ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore dans leur péché, qui n'ont pas été encore réconciliés avec toi, qui voient que ce n'est pas plus compliqué que venir à toi. Car le salut vient de l'Éternel. Merci Seigneur, tu l'as voulu ainsi. C'est simple, c'est beau, c'est gratuit. C'est pour quiconque qui t'invoque. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.